Rendez-vous, citoyens ! Le rendez-vous au carrefour de votre quotidien.
Bonjour, FPP 106.3 FM avec Radio Nomade, l'émission Rendez-vous citoyens. Une émission qui s'intéresse à l'engagement de tout un chacun, individu, collectif, structure, association, bien sûr, au niveau essentiellement local. Aujourd'hui, non à la disparition des associations citoyennes. Alors, on est sur tous les quartiers, puisque non à la disparition des associations citoyennes concerne finalement tous les quartiers de notre territoire, de la France, n'est-ce pas ? On est avec Didier Minot, qui a écrit des associations citoyennes pour demain, un livre édité aux éditions Charles-Léopold Meyer en août 2013, donc c'est tout récent. Bonjour Didier.
Bonjour.
Et donc tu animes un collectif, le collectif des associations citoyennes qui s'est constitué à l'occasion de cet appel, non à la disparition des associations citoyennes, c'est bien ça ?
Il s'est constitué il y a 3 ans,
oui.
À un moment où le Premier ministre de l'époque venait de publier une circulaire qui assimilait toutes les associations à des structures commerciales.
Donc on parle de François Fillon.
François Fillon, la circulaire Fillon.
Pour en 2010.
En 2010. Et à ce moment-là, à quelques associations, on a réagi à ce texte qui était une négation de ce que nous vivions et de ce que nous faisions. Et nous avons constitué ce collectif.
Très bien. On accueille aussi Marie-France Guéffier. Bonjour Marie-France.
Bonjour.
Tu es présidente de la Fédération des centres sociaux de Paris.
Oui, des fédérations des centres sociaux et socioculturels de Paris. Et je suis également bénévole dans un centre social du 19e arrondissement qui s'appelle J2P, Jaurès Petit Pantin.
La Fédération des centres sociaux de Paris a signé cet appel, par exemple ?
Ah oui, 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 on l'a signé à la fois collectivement et individuellement. Certains centres ont signé, des personnes de notre réseau parisien ont signé. Et nous sommes complètement en phase avec le mouvement des associations citoyennes. Et déjà en 2010, moi j'avais fait la connaissance de Didier Minot à l'époque. Nous également, nous interrogions, nous inquiétions sur cette fameuse circulaire Fillon. Donc on avait mis nos neurones ensemble pour essayer de comprendre dans quelle mécanique infernale on était en train de se lancer.
Alors il faut rappeler tout de suite que cet appel a eu un certain succès, puisqu'aujourd'hui, Didier, on est à combien de signatures ?
On approche les 8000, dont plus de 1000 associations. Et parmi ces associations, 80 réseaux nationaux, ce qui veut dire que derrière, le mouvement qui s'est enclenché touche beaucoup plus de 8000 associations et beaucoup plus de 8000 personnes.
On revient tout de suite.
Thank you.
Nous sommes donc avec Didier Minot, animateur du collectif des associations citoyennes, fondateur de RECI, Réseau des écoles de citoyens. Tu peux nous en dire un petit mot ?
Oui, RECI s'est créé il y a maintenant 12 ans à Porto Alegre, au deuxième forum social mondial, pour mettre en lien tous ceux qui pensaient que l'éducation est le levier le plus puissant pour changer le monde. Et c'est une citation de Nelson Mandela qu'on avait prise en 2002. Hein. Et à partir de là, on s'est aperçu que toutes les actions militantes, celles d'un centre social, celles d'une association de consommateurs, un mouvement citoyen, sont porteuses d'éducation. Et donc c'est une éducation à tous les âges de la vie. Et ça a été très riche comme lieu d'échange. C'est toujours très riche comme lieu d'échange et comme lieu d'émergence d'actions porteuses d'alternatives.
Très bien. Nous sommes bien sûr Fréquence Paris Pluriel avec Marie-France Guéffier également, donc Fédération des centres sociaux de Paris. Je vais lire un petit texte de 2012 signé par Stéphane Hessel, Patrick Vivray, Geneviève Azam et d'autres. Dans une tribune qui s'intitulait « Pour un printemps des associations citoyennes ». Alors, plus la crise globale s'aggrave, plus les associations citoyennes sont indispensables pour résister, inventer des alternatives et construire un monde décent à finalité humaine. En France, de nombreux territoires en crise ont inventé leur avenir à partir de la mobilisation de tous. La nécessaire transition écologique et éducative implique de transformer radicalement nos modes de vie et de consommation à partir de choix démocratiques à la base, mais aussi de permettre à chacun de devenir acteur de sa propre vie et citoyen d'un monde solidaire. Didier, c'est tout ça, une association citoyenne ?
Alors oui, une association citoyenne, c'est une association qui ne travaille pas seulement pour l'intérêt immédiat de ses membres, mais qui travaille au bien commun. Alors ce qu'on entend par bien commun, c'est une notion élargie de l'intérêt général, c'est-à-dire tout ce qui peut contribuer à faire émerger une société plus humaine. Je crois que la tribune l'a très bien dit.
Non, effectivement. Alors intérêt général, bien commun, ce sont aussi des termes utilisés par les instances européennes, je crois.
Intérêt général, oui, mais pour l'Europe, l'intérêt général, c'est ce qui est reconnu comme tel par une collectivité. Donc, par exemple, nous avons une association membre du réseau à Nice qui fait de l'accompagnement scolaire pour les enfants roms. Hein. Et le maire, Christian Estrosi, pour ne pas le nommer, refuse de donner un local à cette association, y compris sur l'aire d'accueil. Et l'association est obligée de faire la classe sous les réverbères, à l'ombre des roulottes, etc.
Je croyais que ça n'existait qu'en Inde. J'ai vu une photo dans Géo où il y a un maître d'école fait la classe comme ça dans la rue sous un pont d'autoroute.
Eh ben, ça existe aussi à Nice par la volonté expresse du maire. Voilà. Et donc, dans un cas comme celui-là, pour l'Europe, cette action n'est pas d'intérêt général puisqu'elle n'est pas reconnue comme telle par le maire. Pour nous, elle contribue au bien commun. Donc c'est une notion plus large qui vient d'une adéquation et contribue au bien commun, ce qui en définitive contribue aux droits fondamentaux, contribue à faire respecter les droits fondamentaux.
Droits fondamentaux qui sont repris dans la charte européenne
pour le coup. Sous une version complète dans la Charte universelle des droits de l'homme de 1948 et sous une forme atténuée dans la Charte européenne des droits de l'homme, mais qui serait déjà très très bien si on l'appliquait. Hein.
Effectivement. Et donc, l'intérêt général, bon, on en reparlera de la question européenne, puisque dans l'intérêt général, il y a la question, on ne va pas le développer maintenant, la question des services d'intérêt général, les services s'ils sont économiques,
bien
non
sûr.
Économiques, on y reviendra, mais sous un petit peu la pression européenne, il y a des circulaires qui émanent dans les différents États-nations de l'Europe. Et notamment, il y a donc une circulaire qui est arrivée en 2010, la circulaire Fillon, qui dit cela, j'en lis un petit passage. Dans la pratique, la grande majorité des activités exercées par les associations peuvent être considérées comme des activités économiques, de sorte que les aides publiques qui leur sont apportées doivent respecter la réglementation européenne sur les États, sur les aides d'État. Voilà. De cette façon-là, le texte généralisait les dispositions relatives aux aides aux entreprises.
Voilà, ce qu'on appelle aide d'État dans le jargon européen, ce sont les aides aux entreprises et donc des aides pour des activités de nature économique. Le mot nature économique est également défini dans le jargon européen comme vendre des biens ou des services régulièrement sur un marché. Il est évident qu'une partie très importante des actions menées par les associations ne répond pas à cette définition. Et quand bien même elle y répond, la Commission européenne considère qu'en dessous de 500 000 euros d'aide sur 3 ans, ces actions sont trop petites pour jouer sur la concurrence et donc elles ne sont pas des aides d'État. Et là où nous avons critiqué et même attaqué l'État français, puisqu'au début nous avons déposé un recours en Conseil d'État, que nous avons perdu pour des raisons de recevabilité, mais ce n'est pas grave, nous avons contesté le fait que la France allait au-delà de la réglementation européenne, qui déjà pourtant est bien néolibérale. Hein.
On fait plaisir plus que de coutume aux directives européennes. Finalement, on les applique avec zèle.
Avec zèle et avec un manque de discernement qui est singulier parce que les autres pays européens n'ont pas fait la même chose. Alors, il faut peut-être donner le contexte historique de cette attitude. Cette réglementation découle quand même de la directive service qu'on a appelée la directive Bolkestein dans son temps, qui instaure une libre circulation des services. La plupart des pays européens ont transposé cette directive dans leur droit national au cours de l'année 2007. Mais en France, comme on sortait du non au traité constitutionnel européen, la France n'a pas voulu relancer ce débat à propos de la directive Bolkestein. Et donc on a bricolé des petits bouts de loi ici, par là, pour les hôpitaux, pour les notaires et pour les associations. On s'est contenté d'une simple circulaire pour essayer de donner un peu des règles de droit. Voilà. Mais c'était mal ficelé. Hein.
Finalement, ce que tu veux dire, c'est qu'il y avait la possibilité de protéger certains secteurs, et notamment le secteur de la vie associative.
Voilà.
Et que l'État ne l'a pas fait.
Absolument.
Par peur de faire renaître le débat sur toute la question européenne. Et,
voilà, il n'a pas pris une attitude cohérente, déjà pour cette raison-là. Mais il y a une deuxième raison, c'est que le ministère des Finances est pour la généralisation des appels d'offres. Il est pour que tout passe à des activités privées. Et pour eux, pour le ministère des Finances, comme pour les milieux économiques, comme pour le MEDEF, ces activités associatives sont des gisements de profits inexploités.
On pourrait citer, par exemple, un accompagnement scolaire peut devenir pour une entreprise privée un service lucratif. Et donc, par là même, pourrait attaquer un accompagnement scolaire mené par une association de quartier.
Exactement. C'est ce que fait Acadomia, d'ailleurs.
Marie-France.
Ce que je voudrais dire en complément de Didier Minot, c'est que tout le monde s'est glissé avec volupté dans cette procédure d'appel d'offres, parce qu'on a aujourd'hui les municipalités, y compris la mairie de Paris, qui usent et abusent des marchés publics aujourd'hui. C'est clair. Enfin, au-delà de Fillon, de l'État français, les autres acteurs, les collectivités territoriales, se sont mises dans le moule. Et aujourd'hui, il y a des organisations privées, même des mouvements d'éducation populaire, qui regardent attentivement les appels d'offres qui sont passés à droite, à gauche, et qui se mettent effectivement dans une logique de captation d'un certain nombre de marchés, et dans lesquels effectivement les associations de petite taille, en dehors du fait que ça ne correspond pas à leurs valeurs, à leurs pratiques, de toute façon, ont beaucoup de mal à s'y glisser.
Eh bien, on va revenir sur tout ça. Donc, le collectif s'est constitué, le collectif des associations citoyennes, on le rappelle, s'est constitué en 2010, suite donc à cette opposition à la circulaire Fillon. Circulaire Fillon qui finalement n'a pas été établie, n'a pas été.
Si, elle est en vigueur, bien sûr.
Elle est en vigueur.
Elle est incomplètement appliquée, parce qu'elle est difficile à appliquer. Mais elle est en vigueur et elle reste en vigueur au moins jusqu'à la fin du premier semestre 2014.
Très bien.
Nouvelle de ce matin.
Le collectif, ses buts, c'est l'écho de la situation générale des associations aujourd'hui au grand public. C'est faire aussi un état des lieux. C'est proposer au monde associatif un espace d'échange et de réflexion collective.
Tout à fait.
Et c'est l'ouverture vers les pouvoirs publics et être force de proposition aussi.
Voilà. En fait, si on retrace l'histoire un peu, on a commencé par protester contre une circulaire. Très vite, le collectif s'est aperçu que, en fait, ça, c'était la
on partie... On mettait le pied dans un...
Voilà,
dans
c'était un la immense... partie émergée de l'iceberg et qu'il y avait bien d'autres raisons qui remettaient en cause les raisons d'agir des associations citoyennes. Et donc, on a fait une analyse plus complète, puis des propositions au moment des présidentielles. Et sur la base de ces propositions, on a été reconnu par le nouveau gouvernement comme interlocuteur. Et donc, on a été associé à la concertation qui s'est mise en place sur trois points. Il y a aujourd'hui une révision de la charte d'engagement réciproque entre l'État, les collectivités et les associations, et qui datait de 2001, mais qui s'est ouverte aux collectivités. Donc là, on a pris une part très active, hein, y compris pour amender, etc., au sein de la conférence permanente des coordinations associatives, qui est l'outil de coordination.
C'est la grande structure, une grande structure
de concertation.
De concertation des associations, mais qui est par la même un peu trop grande, des fois, pour écouter les petites et les moyennes, mais...
Oui, alors il y a des problèmes de ce côté-là. Absolument, absolument. Mais disons que sur cette question de la charte, on a très bien travaillé ensemble et les propositions qu'on a pu faire ont été reprises très largement dans la version qui va être signée début janvier.
On va reprendre tout
D'accord,
ça. Donc,
pardon.
On va reprendre déjà les soucis, les problématiques qui se posent. J'en cite quelques-unes. Baisse des financements. On va voir de quelle façon et pourquoi. La question des appels d'offres, on en a parlé. La complexité des procédures. Tout un ensemble de tracasseries et qui aboutit finalement quand même à un grand nombre d'abandons d'associations qui périclitent oui. sur le territoire, de salariés qui sont laissés pour compte. On nomme par exemple Ados à côté, là, sur la Goutte d'Or, qui passe de 8 salariés à 4 salariés.
Tout à fait.
Et tu pourras en citer bien d'autres, je ne sais pas, tu en as quelques-unes comme ça.
Bien sûr. Je vais peut-être laisser Marie-France parler d'Accueil Goutte d'Or, non ? On peut en parler tous les deux, parce que c'est un cas emblématique.
On s'écoute Manu Chao d'abord, Mentira.
Sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Cuando llega, mentira nunca se va. Mentira, mentira la mentira, mentira la verdad. Baby.
Conferencia Internacional sobre Cambios Climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia.
Mais fácil empurrar com a barriga e deixar o abacaxi para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subir.
Non à la disparition des associations. On parle bien du territoire français. On rappelle que la France est en pointe depuis l'année 1901, qui a inventé la loi des associations. Et aujourd'hui, le monde associatif est bien en peine. On en parle avec Didier Minot, qui a écrit le livre « Des associations citoyennes pour demain », édité en août dernier, et avec Marie-France Guéffier, présidente de la Fédération des centres sociaux de Paris. On a évoqué succinctement la question européenne, la circulaire Fillon et les raisons de la mise en place de ce collectif des associations citoyennes. Voyons un petit peu dans le détail les soucis, les problèmes auxquels se confronte aujourd'hui de façon cruciale le monde associatif. Et d'abord, nerf de la guerre malgré tout, les baisses de crédit. Les baisses de crédit, pourquoi baisses de crédit ? Comment ça s'opère,
Alors,
Didier ?
Il faut distinguer les crédits apportés par l'État et les crédits apportés par les collectivités. Depuis 2010, les crédits de l'État diminuent et se concentrent énormément sur quelques très grosses associations. L'État a abandonné les petites et moyennes associations, pratiquement. Il continue à financer un peu les têtes de réseau nationales de moyenne et de petite importance, mais 750 associations, ils distribuent au total 1,3 milliard de crédits chaque année. Mais les trois quarts de cette somme vont à 750 associations de très grande taille. Et quand on regarde sur le total, quand on regarde qui, on voit que 42% des financements vont à des associations parapubliques ou à HEC, ou donc des choses qui n'ont rien à voir avec les associations. Mais oui, HEC a une forme associative. On compte l'aide à HEC dans les financements des associations.
Et j'ai lu aussi ministère, par exemple, des Finances.
Voilà, le plus gros.
Les voyages, enfin les séjours.
L'association la plus active, la pointe de l'action associative en France, c'est les œuvres sociales du ministère des Finances, les restaurants d'entreprise de Bercy, qui comptent pour 65 millions d'euros dans le total. Donc, et ça, c'est compté dans les aides aux associations. Donc, il y a un vrai problème de signification des chiffres qui sont annoncés encore tout récemment par la ministre.
On est un peu loin, là, de la question des associations citoyennes.
Absolument.
On ne parle plus d'associations citoyennes.
Absolument. Alors, ça, c'est du côté de l'État. Du côté des collectifs. Par contre, dans l'État continue à financer des réseaux qui, eux, sont indispensables aux associations citoyennes. Hein, si on prend la Fédération des accidentés de la vie, par exemple, ou des choses comme ça, ils reçoivent une subvention. Hein. Mais l'essentiel vient des collectivités, c'est-à-dire des départements, des régions, des communes et des groupements de communes.
Mais alors, là aussi, il y a aussi un souci, puisqu'il y a différentes politiques. Donc là, pour l'État, on pourrait parler d'un jargon, la LOLF. Hein, ça veut dire la loi organique relative aux lois de finances.
Oui.
Ça, c'est ce qui expliquerait un petit peu la diminution des crédits de l'État.
Oui.
Si j'ai bien compris.
Qui est devenue RGPP.
Et la RGPP, c'est la révision générale des politiques publiques. Là, c'est encore une couche.
Oui.
Et qui explique pas mal aussi de baisses de financement. déjà dans les services publics en général que tous les Français connaissent, mais qui touche finalement aussi le monde associatif.
Je vais essayer d'être clair parce que c'est un sujet compliqué. Du côté des financements à proprement parler, ce qui a le plus joué, c'est... Je vais parler après de ces deux lois qui sont essentielles, hein, qui, pour expliquer la situation des associations. Mais ce qui a le plus joué, c'est que la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire l'argent que l'État donne en compensation des compétences qu'il a transférées aux régions, aux départements et aux communes.
Cette dotation... Quelles compétences, par exemple ?
Oh ben, par exemple...
Les questions sociales, l'apprentissage,
voilà, la formation.
La dépendance, la formation professionnelle, l'aide aux entreprises, etc. etc. Enfin, il y a une liste qui fait plusieurs pages. Bon. Il y a une dotation qui, normalement...
vient compenser l'affectation de nouvelles missions.
La Constitution dit que l'État doit compenser les suppléments de charges.
Vers les collectivités.
Oui, la Constitution n'est pas respectée. Depuis 2010, cette dotation globale est étale. Elle ne suit pas l'augmentation des besoins. Par exemple, avec la crise, il y a beaucoup plus de personnes qui relèvent du RSA. Ça ne suit pas. Avec l'allongement de la durée de la vie, il y a beaucoup plus de personnes dans la dépendance. Voilà. Bon. Et non seulement... ça n'augmente pas, mais pour 2014 et 2015, l'État a annoncé au nom du plan de rigueur que cette dotation allait diminuer de 1,5 milliard en 2014 et 3 milliards en 2015.
Donc finalement, on pourrait aller direct au but. Les petites et moyennes associations peuvent assez facilement être envisagées comme la variable d'ajustement.
Exactement. Tout se passe comme si les associations étaient la variable d'ajustement du plan de rigueur. Or, ce qui se passe avec cette baisse de la dotation, c'est que comme les collectivités ont des compétences obligatoires qu'elles sont obligées d'assumer, elles font passer ces compétences en premier. Et donc, les départements vont financer l'aide sociale, mais au détriment de la culture, de l'environnement, de l'éducation populaire, de la défense des droits, de tout ce qui est finalement porteur de citoyenneté.
De l'éducation populaire.
Voilà, l'éducation populaire, tout ce qui est...
les nouvelles formes d'économie solidaire.
L'économie solidaire, exactement.
La transition énergétique.
Voilà, ça fait partie de...
Oui. Travailler au niveau associatif.
Voilà, et ça nous fait dire que... On s'achemine vers un vaste plan social invisible de 30 à 40 000 emplois en 2014 perdus par les associations. Mais comme c'est disséminé par paquet de deux ou trois, ça n'a pas le même impact médiatique que quand 300 ouvriers sont licenciés dans une raffinerie, ce qui est un malheur aussi. Hein, mais,
oui. Est-ce que vont être touchés les restaurants du ministère des Finances ou
l'association
pas, HEC
c'est bizarre, ça, on n'en parle pas. Non, voilà.
Par contre, si vous m'autorisez, je voudrais évoquer une question particulière, parce que là où l'État reste quand même encore assez fortement impliqué, c'est dans ce qu'on appelle les emplois aidés. Et les associations sont les bienvenues quand il s'agit de répondre, par exemple, à la politique des emplois d'avenir qui a été lancée par le gouvernement actuel il y a quelques mois. Donc là, on se tourne vers les associations. Est-ce que vous pouvez faire venir dans vos structures toutes ces personnes, ces jeunes, etc. Bon, nous répondons positivement parce qu'il y a un vrai besoin de soutenir l'emploi associatif. Mais nous, ce que nous souhaiterions, c'est que l'emploi associatif puisse se faire, disons, dans les procédures de droit commun. C'est-à-dire qu'on Absolument. Puisse embaucher des salariés normalement et d'avoir les moyens de les financer. Parce que les emplois aidés, c'est bien. Mais effectivement, comme on le dit dans nos associations, ce sont des bombes à retardement. Parce que généralement, ce sont des emplois, au bout de 3 ans, ça s'arrête. Les personnes ne rentrent plus dans les conditions. Donc elles partent. Il faut embaucher quelqu'un de nouveau. Ou embaucher personne parce qu'entre-temps, la procédure a été supprimée, remplacée par une autre. Donc là, vous voyez, l'État est resté relativement... présent sur ces dispositifs au titre du soutien à l'emploi, qui est sans doute quelque chose qui peut se soutenir. Mais vu du point de vue associatif, il faut bien se dire que ça reste quelque chose de vraiment très problématique parce que c'est des aides qui ne durent pas.
Ça manque de suivi et donc ça fragilise aussi la continuité associative,
la démarche pérenne, ça fragilise les personnes qu'on emploie et qu'on ne peut pas garder. Vous voyez la multiplicité
alors,
des fragilités.
Alors, comment le monde associatif pourrait employer dans le droit commun, dans le cadre du droit commun?
Pour employer dans le droit commun, ça veut dire qu'il faut que les associations aient les moyens, dans le cas de
subventions de fonctionnement,
que les subventions leur permettent de financer les salariés qui mènent les différentes activités et projets.
J'en viens peut-être.
Oui, Didier.
À l'effet de la RGPP. La RGPP, c'était la révision générale des politiques publiques. C'est ce qui a conduit à supprimer un fonctionnaire sur deux. Et en même temps, c'est l'introduction de méthodes fortement inspirées des entreprises privées dans la fonction publique, alors que l'action publique relève d'une autre logique, puisqu'il faut voir la globalité des choses. Là, on a tout fractionné en petits morceaux et on a imposé des critères quantitatifs. Par exemple, au ministère des Affaires sociales, la direction de l'action sociale finançait 350 associations. Et on leur a imposé, avec la RGPP, de n'en financer plus que 150. C'était un objectif quantitatif qui semblait mesurer l'efficacité de ce service.
Analyse du terrain.
Voilà. Et en termes d'état d'esprit, l'introduction de la LOLF est très proche. Hein. C'est une loi qui a fixé des programmes. Loi d'orientation qui a fixé des programmes par grand paquet de subventions et qui a amené à la disparition de très nombreuses lignes qui étaient nécessaires. Hein. Mais en termes d'état d'esprit, on voit gagner au sein de l'État, au sein des collectivités et même au sein de certaines grandes associations, un esprit qu'on appelle, nous, le managérialisme d'un mot barbare. C'est une idéologie qui consiste à tout voir en termes de ratios et de chiffres et à ne plus voir la réalité humaine des choses. Et donc, tout devient substituable et plus rien ne compte. Les raisonnements sur l'efficacité
n'ont pas de sens. Tout est interchangeable. Voilà. Il n'y a plus de logique de territoire. Il n'y a plus de logique de proximité, d'écoute.
Qualitative. Voilà.
Jean-Louis Laville, sociologue et professeur au CNAM, explique ça en parlant de la marchandisation des associations et la marchandisation en général procède d'une part de la privatisation d'activités publiques, mais également de la diffusion d'un référentiel marchand dans le cadre des régulations publiques.
Et c'est exactement la même chose, voilà. Exactement.
Voilà. Prestataire de services, effectivement, Gabriel à la technique me souffle le mot. Derrière ça se glisse l'idée que l'association devienne un simple prestataire de services.
Exactement. C'est-à-dire que les associations, dans leur diversité, dans leur pulvérulence, certains ont dénoncé la pulvérulence associative. C'est incroyable, ça. Alors que les associations sont sur le terrain... Les garants de la vie sociale, les garants qui font société.
Hein. La société est diverse, la société est multiple. Le monde associatif est à l'image de la société. Finalement.
Voilà, et fait le lien social, hein. Répond aux besoins au plus près du terrain.
C'est marrant comme on a toujours un peu peur finalement de la multiplicité, de la diversité d'actions, d'activités. On a toujours cette tendance vers l'uniformisation de nos sociétés.
Ce pouvoir technocratique qui est très présent dans certaines collectivités préfère avoir quelques grandes associations institutionnalisées, banalisées, ayant un fonctionnement d'entreprise, parce que là, on peut les contrôler et là, on peut discuter de façon sérieuse, hein, parce qu'on est sur des choses, rentabilité, marketing, etc. Hein. Et c'est contre ça qu'on se bat, c'est contre cette réalité, parce qu'on estime qu'il y a une forte résistance à cet esprit qui passe pas très bien et qui a déjà démontré son échec.
Je voudrais peut-être
Marie-France.
Ajouter que, je vous l'ai dit tout à l'heure, avant que l'émission démarre, nous nous impliquons dans la préparation des élections municipales. Nous allons effectivement être très mobilisés. Et on a listé 6 enjeux pour mieux vivre ensemble à Paris. Et le 6e enjeu, je vous le lis rapidement, c'est la non-reconnaissance de l'importance et du rôle de la vie associative dans les quartiers. Et nous disons, les associations de proximité sont les forces vives de la société civile dans les quartiers. Elles revendiquent un rôle d'acteur associé à l'élaboration des politiques publiques, à leur mise en œuvre et à leur évaluation. Voilà, je crois que ça repositionne bien la question du rôle des associations aujourd'hui.
Et on se dirige peu vers ça. Effectivement, tu as soulevé la question de l'évaluation collective aussi des démarches, puisque le monde associatif est interpellé continuellement sur ces évaluations. On n'est pas loin des fois d'audit presque, hein, encore un terme du milieu entrepreneurial. La question, c'est que tu proposes, Didier, que l'évaluation, par exemple, puisque j'ai nommé le terme, qu'on en parle de tout de suite, soit pris en charge de façon collective, association oui. et pouvoir public réfléchissent collectivement à ce que pourrait être une évaluation.
Tout à fait.
Véritable évaluation.
Tout à fait. Ce que, dans le langage commun, on appelle évaluation, c'est finalement l'accumulation d'un certain nombre de chiffres qui vont permettre de faire des moyennes et de montrer que le service public fonctionne bien. Mais ça, en 1990, Patrick Vivray avait fait un rapport sur l'évaluation.
Patrick Vivray, oui. Tu peux le présenter ?
Ah, Patrick Vivray, qui est un philosophe économiste... militant et qui a travaillé sur les nouveaux facteurs de richesse en montrant que la richesse n'était pas uniquement financière mais était faite de tout ce qui constitue la vie,
hein,
et qui aujourd'hui est un des piliers du mouvement Roosevelt qui est en train d'essayer de développer d'autres solutions au plan global, hein. Voilà. Alors
Excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, tu as indiqué...
Donc, Patrick Vivray avait fait un rapport sur l'évaluation pour montrer que l'évaluation, si elle est partagée, est un outil de démocratie et qu'elle permet un débat autour d'une meilleure connaissance des objectifs, de la façon dont ils ont été atteints et de ce qu'il faut faire par la suite. Et donc, sur beaucoup d'expériences de développement local en France, se sont appuyées sur cette conception d'évaluation pour bâtir des évaluations participatives qui sont des outils de gestion interne, en les distinguant de l'évaluation des politiques publiques qui est en fait au service des pouvoirs publics et pas des acteurs eux-mêmes.
Très bien. Là-dessus, on en a parlé plusieurs fois, l'appel d'offres, puisque finalement, par la baisse de crédit, par la mise en place finalement d'une approche plutôt... de prestataires envers les associations, on glisse du principe de la subvention qui est acquis depuis un grand nombre d'années vers une logique beaucoup plus d'appel d'offres, de commandes publiques. Marie-France, quels sont les enjeux par rapport à ça ?
D'abord, j'ai sous les yeux, puisque le Monde a eu la bonne idée de faire un dossier sur les associations, et là, je vois que dans les financements des associations, sur la nature des ressources, on voit qu'entre 2005 et 2011, la commande publique est passée 17 à 25% des financements, alors que les subventions publiques sont passées de 34 à 24%. Donc on voit bien la manière dont les choses sont en train d'évoluer en 6 années. On voit bien la pente sur laquelle nous nous trouvons. Donc c'est vrai qu'en ce qui concerne les associations et au sein des associations pour les centres sociaux et socioculturels, je serais tentée de dire que... Au-delà de l'aspect financier, de l'aspect procédure, ce qui pose à notre sens le problème le plus important, c'est que dans nos associations, nous sommes dans une approche globale des situations de nos quartiers et des citoyens qui fréquentent nos associations. Quand on rentre dans une logique de marché public, les associations... perdent leur autonomie, perdent leur indépendance, parce qu'en fait, on s'inscrit effectivement dans une logique de répondre à une commande qui est explicitée. Effectivement, aujourd'hui, quand un maître d'ouvrage public veut faire construire un immeuble, c'est normal qu'il précise exactement la taille de l'immeuble, le nombre de logements, en fonction de qui il va mettre dedans. Mais nous, nous inscrivons pas du tout dans cette logique-là. Nous partons des habitants, nous montons des projets avec les habitants qui sont des projets globaux sur un territoire, et il n'y a pas de place dans cette approche pour...
C'est difficile de mettre la question humaine en fiche.
Oui, c'est difficile, c'est difficile.
Ou les spécificités, hein, des fois. C'est...
L'humain n'est pas si est plus fluide et moins maniable que ça. C'est difficile de mettre un quartier et ses habitants dans des cases.
Exactement.
Dans des cases de critères.
Et tout à l'heure, vous parliez du centre social accueil Goutte d'Or. Le centre social accueil Goutte d'Or gérait un travail avec des demandeurs d'emploi qui étaient bénéficiaires du RSA. Ils étaient dans un accompagnement d'insertion de ces personnes. Et ils inscrivaient évidemment l'appui à ces habitants dans l'ensemble des activités du centre social. Et le jour où on s'est retrouvé dans une logique de marchandisation, hein, je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots, donc de marché public, le centre social a répondu, hein, il avait des salariés en plus qui travaillaient sur ces questions, et il n'a pas été retenu pour des raisons de coût et pas de qualité. On n'a pas du tout pris en compte la spécificité de l'approche globale que menait ce centre social associatif.
Quand vous parlez d'approche globale, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre l'accompagnement vers l'insertion et en même temps le lien apporter aux familles,
bien
entre
sûr,
parents
bien
et enfants,
sûr, tout à fait.
Fête de quartier, la connaissance individuelle de chacun. Voilà. Et tout ça, pour vous, est indispensable pour arriver à une véritable insertion.
Tout à fait. C'est absolument ce que font les centres sociaux et d'autres associations. C'est cet accompagnement qui fait que la personne n'est pas saucissonnée en tranches et qu'on l'inscrit effectivement dans un ensemble d'activités, de projets et même... Et ça, c'est la logique, effectivement, de nos associations. Non seulement on les fait bénéficier d'un ensemble d'activités, mais on les sollicite même pour qu'ils soient initiateurs de projets.
Très bien. Je lis justement un passage de Bernard Masséra que tu as écrit dans ton livre. Président d'Accueil Goutte d'Or.
Ancien président.
Ancien, pardon. D'accord. Donc, les marchés publics. Les associations passent, avec les marchés publics, les associations passent du statut de partenaire à celui de simple prestataire des pouvoirs publics. Les critères de coût sont tels qu'elles sont contraintes d'employer du personnel précaire à la place de personnel qualifié, parfois en dessous du SMIG. Elles doivent renoncer à leur projet associatif et à leur liberté d'action et d'innovation. Elles doivent renoncer à une approche globale et à la prise en compte de la durée, souvent nécessaire à la résolution de situations individuelles ou collectives complexes. Seul compte désormais la mesure des critères exclusivement quantitatifs.
Voilà.
C'est assez bien résumé ?
Tout à fait. Et en fait, aujourd'hui, cette tendance-là se cumule avec les dysfonctionnements propres à l'administration. C'est-à-dire que quand on passe aux appels d'offres, on a une incertitude telle qu'il ne peut pas y avoir de continuité. C'est-à-dire, on attend le résultat de l'appel d'offres. On peut avoir, et on est amené à travailler pour rien dans un certain nombre de cas. C'est complètement incompatible avec la continuité du travail associatif.
Donc c'est la question aussi de l'instabilité financière, de la non-visibilité des financements, la non-visibilité et donc par là même la non-projection de son action sur le temps.
Voilà, mais c'est une instabilité qui n'est pas propre aux appels d'offres. C'est-à-dire pour les subventions également, la crise des finances publiques se traduit par des délais de paiement de plus en plus longs, parfois insensés. Hein. Par exemple, nous venons de répondre, le collectif, à un appel à projet. Cet appel à projet, on nous dit... qu'on va avoir une réponse en avril pour une mise en application dans la deuxième semestre de l'année 2014. Donc il y a presque un an entre le moment où on dépose un dossier et le moment où on peut travailler. Comment peut-on faire une action continue dans ces cas-là ? Hein, c'est impossible.
Alors la plupart des associations commencent l'action. finalement. Hein, oui. Ils commencent, même s'ils ne sont pas sûrs d'avoir les financements.
Oui, mais le problème, c'est que les règles antérieures, qui étaient des règles de saine gestion dans un État qui fonctionnait bien, continuent à s'appliquer. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, dans le compte-rendu financier qu'on remettra à la fin de l'action, de comptabiliser les dépenses qu'on a effectuées avant la prise de décision. C'est ce qu'on appelle la règle de l'antériorité, en jargon administratif. Non, et donc, on est dans un système kafkaïen.
Il faut faire le projet en 3 mois, sur une réponse d'appel à projet pour 1 an.
Voilà, et remettre l'évaluation avant le moment où on a démarré l'action, pratiquement.
Je pense qu'à travers ce qu'est en train d'expliquer Didier Minot et ce que vous dites, on voit très clairement que cette manière de faire convient relativement bien à certaines grosses organisations, parce qu'elles ont les moyens financiers pour gérer effectivement les délais qu'on vient d'évoquer, parce qu'elles ont aussi les moyens éventuellement de perdre un peu d'argent dans un endroit, d'en gagner dans un autre, de déplacer des personnes d'une structure dans une autre, parce qu'ils ont effectivement un territoire qui est plus vaste. Quand on est une petite association ancrée sur un quartier qui est sa légitimité d'intervention, eh bien, on voit bien qu'on est complètement impacté. Quant à Accueil Goutte d'Or, ils n'ont pas eu ce marché du RSA. Eh bien, il y avait 2 salariés et ils ont dû malheureusement s'en séparer.
Là, tu soulèves la tendance lourde de privilégier, tu en as déjà parlé, Didier, de privilégier les grosses structures au détriment des petites et moyennes associations qui émaillent le territoire, mais qui finalement ne seraient pas assez visibles, ne seraient pas assez, on ne pourrait pas les cerner, on ne pourrait pas faire correctement leur évaluation, et finalement on les abandonne.
Voilà, alors c'est pour ça que dans les propositions que nous formulons, au premier rang, on demande que l'État, comme les collectivités, reconnaissent la diversité associative, reconnaissent que la majeure partie des associations ne sont pas des grosses associations qui sont sur le marché, répondent aux appels d'offres, etc., mais sont des associations qui travaillent au service des citoyens et qui sont composées de citoyens. Donc c'est notre première revendication.
Donc ça voudrait dire concrètement, par exemple, diversifier les modèles de convention,
oui,
adapter les conventions pour des petites et moyennes associations.
Voilà, les conventions les pièces, les dossiers administratifs sont de plus en plus complexes et se complexifie avec la méfiance des gestionnaires vis-à-vis des associations et leur méconnaissance du monde associatif. Par exemple, le Conseil régional d'Île-de-France vient, dans le dernier appel à projet, de multiplier par 2 le nombre de pièces nécessaires en demandant aux 3 exemplaires originaux tous les statuts, etc., pour chaque, alors qu'en fait, ils l'ont déjà dans leur dossier depuis longtemps, quoi.
Oui. Et puis, je serais tentée de dire qu'il y a quand même une forme de mépris vis-à-vis des petites associations. On aurait tendance à penser que parce qu'elles sont petites, elles n'ont pas les compétences, alors que dans les grosses structures, parce qu'on aurait les moyens de se payer les services de tel ou tel cadre de haut niveau, on aurait à coup sûr de la compétence. Et ça, effectivement, ça doit être absolument contesté et combattu.
Et il semble même qu'à l'inverse, plus on est gros, plus on s'éloigne du terrain et des véritables problématiques, alors, et on est moins près des personnes.
Alors je ne pense pas qu'on puisse faire... Il n'y a pas une relation mécanique. Un certain nombre de grosses associations se battent pour conserver un projet associatif. Par exemple, la Ligue du Val d'Oise a décidé, face à la nouvelle situation, de redonner de la force aux bénévolats, de coller au terrain, de revenir à une démocratie interne, etc. Donc ce n'est pas inéluctable, ce n'est pas un effet. Mais c'est vrai que la pression sur les associations institutionnalisées est telle que assez peu résistent à la banalisation.
Yeah. Donc on parle beaucoup. Les grandes associations se mettent à parler beaucoup, mais finalement...
Nous, avec le collectif, on essaie
vous parlez aussi
de donner...
Pas mal.
On parle pas mal maintenant. Hein, ouais. Donc, et en fait, on voit bien que ce qu'on demande aussi, hein, c'est que d'autres relations s'instaurent entre associations et collectivités. On n'est pas centré uniquement sur l'État, parce que l'État n'est plus l'interlocuteur principal. Ce sont les collectivités. Et avec les collectivités... c'est important de développer des relations partenarial chaque fois qu'on peut. Bon, certaines fois, c'est l'affrontement, parce qu'il y a aussi du mépris chez certaines.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par partenarial ? Parce que les collectivités territoriales vont vous dire, mais on en fait du partenariat.
Alors, le partenariat, ça veut dire reconnaître la compétence. Chacun reconnaît la compétence de l'autre. Donc, ça veut dire que associations et collectivités ne sont pas identiques, hein, mais peuvent travailler ensemble si la collectivité reconnaît le rôle, la liberté et la capacité d'invention de l'association, et réciproquement, si l'association reconnaît que la collectivité est porteuse de l'intérêt général et d'une vision globale et d'une légitimité donnée par la démocratie. Et puis, c'est également que chacun travaille à la mesure de ses moyens, et les moyens ne sont pas identiques, et que tous sont au service de mêmes enjeux. Et là, en fait, on est face à des enjeux très importants sur les territoires.
Tu en parles, tu indiquais aussi à un moment la question de la formation peut-être des agents techniciens, des agents des collectivités locales qui finalement sont assez éloignés de la base et du territoire et qui connaissent pas forcément très bien les problématiques associatives et l'action associative.
Alors cette formation, évidemment, on souhaiterait qu'elle puisse se développer avec... des expériences de terrain, avec un travail, un contact avec le terrain. D'ailleurs, j'ai été formateur d'agents territoriaux, d'administrateurs territoriaux, et je faisais une semaine sur le terrain avec les jeunes administrateurs. C'était super. Malheureusement, ça a été supprimé.
Ils étaient intéressés ?
Très intéressés. Très intéressés.
Et ça a bougé ? Tu avais l'impression que ça bougeait les lignes ?
J'ai 20 ans après, je suis toujours en lien avec certains de ceux que j'avais formés. Et ouais. C'était super.
On écoute une petite Munich. On aurait encore beaucoup de choses à dire. L'émission commence, approche de la fin. On va reprendre les dernières 5 minutes pour évoquer l'action, les perspectives d'action du mouvement des associations citoyennes. Et on écoute pour l'instant Cacophonie. Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM pour nos dernières 5 minutes sur Rendez-vous Citoyen avec Didier Minot, animateur du collectif des associations citoyennes, et Marie-France Guéffier, présidente de la Fédération des centres sociaux de Paris. On a évoqué les problématiques aujourd'hui du monde associatif, les réponses que le collectif souhaiterait pouvoir apporter. Il faudrait rappeler encore une fois, très rapidement puisqu'on n'a pas le temps, tous les secteurs dans lesquels intervient le milieu associatif et qui aujourd'hui semblent toujours aussi importants. L'éducation populaire, J'en dis un mot sur l'éducation populaire. L'éducation populaire, fondamentalement, désigne une démarche d'émancipation. Je pense que ce terme est important. Il ne s'agit pas de faire des activités les unes après les autres. On est bien dans la prise en compte de la personne, la prise en compte du citoyen, de l'accompagnement vers une émancipation et vers la possibilité d'une prise de décision à son tour dans les enjeux de transformation sociale. Justement, le lien social aussi, les solidarités, le monde associatif joue un très grand rôle, les centres sociaux pour fédérer les quartiers, les personnes qui y vivent dans une dynamique constructive, Marie-France ?
Oui, et participative.
Et participative. Il y a des questions nouvelles dont le milieu associatif est très présent, la transition énergétique et l'économie solidaire. L'économie solidaire, c'est la mutualisation, les circuits courts, le respect de la personne aussi dans les enjeux d'économie, l'animation des territoires. Et participation citoyenne, c'est le bien commun, la démocratie, l'autonomie. Je dis beaucoup de choses en très rapidement. Temps,
oui.
Didier,
oui,
on est d'accord ?
Bien sûr, bien sûr. Et je pense que tout ça, ça introduit des logiques de coopération et un apprentissage à la participation citoyenne dont on a beaucoup besoin aujourd'hui si on veut échapper à la désespérance. Et c'est pour ça que le collectif des associations citoyennes continue à se battre et envisage une nouvelle étape de son action.
Alors, les rendez-vous, qu'est-ce que le collectif des associations citoyennes, je vais y arriver, oui. Propose comme perspective ? Alors, vous voulez interpeller les élus au moment des municipales ?
Tout à fait. On pense organiser un nouveau temps fort partout en France pour demander aux candidats aux élections municipales de reconnaître et respecter le rôle des associations en tant que partenaires à part entière de la construction des politiques publiques, augmenter les moyens matériels et financiers qui permettent de développer des projets associatifs, et utiliser la subvention et non les appels d'offres, mais aussi travailler en partenariat pour réfléchir ensemble sur les enjeux. Ça, c'est la demande immédiate.
Les rendez-vous sont pris. De toute façon, on peut aller voir sur Internet.
Alors,
on
voilà.
tape CAC.
Le site, non, on tape association-citoyenne.net avec W devant. Et on tombe sur le site du collectif où il y a énormément de choses. Et où on invite tous ceux qui le souhaitent à nous rejoindre et à participer à ce travail qui est un travail commun. De très nombreuses associations en Île-de-France.
Vous mettez association citoyenne sur n'importe quel moteur de recherche et vous trouvez. Merci à vous, merci Marie-France Gueffier, merci Didier Minot. Je rappelle ton livre, « Des associations citoyennes pour demain ». En fait, c'est une réflexion sur le monde associatif aujourd'hui et la défense des associations. Édition Charles-Léopold Meyer, ça vient de sortir août 2013. Allez-y, c'est instructif, il y a beaucoup de choses et ça éclaire le débat. Merci.